Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Suffered destitution. Well, that was never our history. Our history was of revolution. We never went hungry. We never suffered destitution. That was never our history. Was a revolution. That is why my grandfather persisted with his toy to root that sheen and cassava, to peel the great air of its leaf. The sea green banana with its temporal trunk was to be cut and flung to the mud. And although there was no discernible scheme, at least not to us, perhaps the old man was compelled to plant those trees along roots embedded in the maps of his palms. Because history had tied him to the land, and he could never break free.
La personnalité que nous allons vous présenter aujourd'hui est originaire de Trinidad, dans les Caraïbes. Auteur, poète, chanteur, il milite depuis plus de 20 ans à travers ses écrits et ses disques pour une reconnaissance universelle de sa terre natale et d'une région du monde dont la diversité et la richesse culturelle nourrissent l'épopée des musiques noires. Il s'appelle Anthony Joseph et son dernier album, Caribbean Roots, est une ode à cette kyrielle d'identité territoriale façonnée par différents épisodes de colonisation et de flux migratoires. En travaillant avec le percussionniste guadeloupéen Roger Raspail, Anthony Joseph a pu constater la myriade de couleurs sonores issues des Caraïbes. Si certains rythmes semblent consolider le tronc commun des traditions régionales, 400 ans de coutumes locales ont légitimé la singularité des populations insulaires. Cette vérité historique fut la sève de Caribbean Roots, un album ouvert et généreux, comme notre invité du jour, Anthony Joseph, que nous avons rencontré en juin dernier alors qu'il participait au Festival Jazz de la Défense, près de Paris.
One day the sun might be shining, the rain might be falling same time. The devil and his wife might be fighting for a ham bone, and that bush was broad, remember? The veritable gust of light, a vision, a view of hills and herbs besides. Miss Henry was in her veranda shelling peas and watching, and at some point the seed pod burst and through the limit of air. And this is what we had, and we worked with it. We were given a small holding, we were thrown the husk. But there was something in the way the light splashed against the side of the house on Sunday afternoon.
Oh.
There was something in that light.
Oh, we never went away. Never seen destitution. That was never our history. Our history was a revolution. We never went hungry. That was destitution.
C'est donc un voyage dans les Caraïbes que nous propose notre invité du jour. Il est originaire de Trinidad, mais se voit d'abord comme un artiste panafricain universaliste. Nous avons le bonheur d'accueillir Anthony Joseph. Merci d'être avec nous.
It's a pleasure, real pleasure.
Je viens de vous qualifier d'universaliste panafricain. Est-ce que cette définition vous convient?
Yes, I think now after working, this is my 10th year of doing this, and I think I think after 10 years.
Cela fait 10 ans que je fais de la musique, et après une décennie de travail acharné et 6 albums à mon actif, je peux en effet accepter ce terme d'artiste panafricain ou pan-caribéen, avec certes une intention politique. Même si ce n'est pas ce qui rejaillit en premier lieu dans mes œuvres, mon militantisme est davantage la conséquence de mon travail.
Votre nouvel album, Caribbean Roots, est une ode à la richesse culturelle de tous les territoires qui composent les Caraïbes. Comment est née l'idée ? Personne n'avait pensé à unir en musique les peuples caribéens ?
I don't know who has. I mean, there were bands. I think there was a band in the 70s in London called Saimande.
Il y avait un groupe dans les années 70 qui s'appelait Saimande, qui symbolisait cette génération de musiciens caribéens capables de mélanger le jazz, le funk et le calypso. Il y avait aussi à cette époque le groupe Bati Mamzel, qui était composé de musiciens issus de plusieurs îles des Caraïbes, Saint-Vincent, la Jamaïque ou Trinidad. Et même s'ils vivaient à Brixton, en Angleterre, ils se réunissaient et partageaient leurs racines. Le groupe Osibisa est le meilleur exemple de cette diversité caribéenne et africaine. Je ne dirais donc pas que je suis le premier à avoir tenté cette union des forces vives caribéennes, mais je suis peut-être le premier depuis bien longtemps à avoir ravivé cette volonté d'unité.
Qu'avez-vous appris de vos voisins caribéens en concoctant ce projet ?
I realized that actually, we speak a common language, a common musical language, a common rhythmic language.
J'ai réalisé en préparant ce disque que nous partageons tous un langage musical commun, je dirais même un langage rythmique commun. On imagine souvent les Caraïbes comme un territoire fragmenté, composé de plusieurs îles, avec chacune leur spécificité. Mais il ne faut jamais oublier que nous avons une histoire commune. Nous sommes tous issus des mêmes racines, l'Afrique. C'est ce qui réunit la Martinique, la Guadeloupe, Trinidad et Tobago, la Grenade, etc. Ce sont des sociétés nées du travail dans les plantations. En peaufinant ce disque, j'ai découvert le dénominateur commun de toutes ces îles. J'ai compris que cette région n'était pas aussi fragmentée qu'on le laissait entendre et qu'il y avait une unité historique et culturelle réelle aux Caraïbes.
Est-ce que vous connaissiez le groka de Guadeloupe, le bélé de Martinique, la musique racine d'Haïti avant de vous lancer dans cette aventure ?
Yes, not much, because you know I've been working with Roger Raspai for many years now.
Je ne connaissais pas vraiment bien toutes ces musiques, mais comme j'ai longuement travaillé avec Roger Raspai ces dernières années, il m'a fait découvrir ce patrimoine. Il m'a fait écouter des dizaines de disques que je ne connaissais pas à l'origine. C'est ainsi que je me suis plongé dans le guoka, le bélé, etc., sans véritablement connaître la signification et l'origine. Par contre, j'ai réalisé en répétant avec mes musiciens que nous utilisions des rythmes de Martinique ou de Guadeloupe. Et bizarrement, tout cela me paraissait familier. Pour moi, le rythme est le tronc commun à toutes les musiques issues des Caraïbes. Et comme le rythme nourrit la mélodie, les mélodies ont nourri le patrimoine caribéen, etc., etc.
Au-delà de la musique, est-ce qu'on peut dire que ce disque est un manifeste ?
Yes, I would say so. To a certain extent. I mean, I'm not a politician. I'm a musician and a poet.
Je ne suis pas un politicien, je suis un musicien et un poète. Mais il est vrai que le rôle de l'écrivain ou de l'auteur est d'exprimer ses idées, ses convictions. Mon idée première pour ce disque, Caribbean Roots, est d'inciter mes contemporains à chercher l'origine de leur culture. Je cherche à donner un sentiment d'unité à toute la Caraïbe. Je ne veux pas être seulement perçu comme un descendant d'esclaves africains qui vit aux Caraïbes. Je veux d'abord être identifié comme un Caribéen, parce que nous vivons dans cette région du monde depuis 400 ans. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un point de vue militant, mais sûrement d'un point de vue anticolonialiste. Je veux imprimer l'idée que nous avons une histoire propre aux Caraïbes, avec des racines aux Caraïbes et une culture caribéenne. La déportation d'esclaves africains vers les Caraïbes a certes existé, mais nous avons façonné un patrimoine aux Caraïbes. Je préfère présenter les choses de cette manière-là. Et je reconnais qu'il y a dans mon engagement une tonalité politique.
Justement, sur le dernier titre de l'album, l'un de vos frères guadeloupéens dit « Je ne suis pas français, je suis caribéen ». C'est une déclaration politique, est-ce que vous ne trouvez pas ?
Yes, that was a very...
C'est assez important pour moi de faire entendre ce discours-là, car je suis souvent en France et je ne voulais pas qu'il y ait de confusion dans mon propos. Et d'ailleurs, les spectateurs qui assistent à mes concerts me le font bien comprendre. Cette phrase est née d'une discussion que j'ai eue avec Roger Raspail. C'est lors d'un échange par email dans lequel je lui faisais remarquer que l'une de ses compositions avait une tonalité très française que sa réaction m'a interpellé. Je ne suis pas français, je suis caribéen, je suis guadeloupéen. À l'époque, j'ai trouvé sa déclaration très véhémente, mais tellement juste.
De Dizzy Gillespie à David Murray ou Jacques Schwartzbart, les Caraïbes ont toujours nourri l'histoire du jazz. Pourquoi, selon vous, est-ce que le concept commun pour l'émancipation de l'homme noir rapprochait justement ces différents genres musicaux ?
I think, you know, what it is, right, is... I was speaking to Archie Shepp about this recently, and...
C'est amusant, je parlais justement de cela avec Archie Shepp récemment. Il faut se souvenir que les Africains ont été déportés vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Les Africains en Amérique du Nord n'étaient pas autorisés à exprimer leur culture à travers leurs rythmes ancestraux. Leur musique s'est donc développée davantage sur l'harmonie et la mélodie. C'est en tout cas la position d'Archie Shepp à ce sujet. Pour lui, cela explique la genèse des Negro Spirituals. En Amérique du Sud et dans les Caraïbes, nous pouvions utiliser les percussions et les rythmes de nos ancêtres, ce qui a donné naissance, par exemple, au candomblé au Brésil. La pulsation rythmique a dessiné les contours d'une identité culturelle. Le rythme et la mélodie de la diaspora africaine se sont finalement rencontrés au tout début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. Les Africains d'Amérique du Sud et ceux d'Amérique du Nord ont trouvé du travail en Louisiane et ont partagé leurs spécificités et leurs connaissances. Cette fusion des deux approches africaines de la musique a donné naissance au jazz. Lorsque ces populations africaines se sont rencontrées à la Nouvelle-Orléans, l'influence caribéenne était indéniable. C'est finalement le voyage des peuples africains qui a nourri l'épopée des musiques noires. Les Caraïbes sont, de toute façon, un territoire de brassage culturel par lequel transitent différents peuples en direction du nord des États-Unis où ils emportent avec eux les rythmes de leur quotidien.
Quand on écoute vos albums, Anthony Joseph, l'afrobeat semble la matrice de votre musique. Vous êtes pourtant loin du Nigeria. Comment expliquez-vous cela ?
Well, you find that I'm a Trinidadian. One of the main musics from Trinidad is soca.
D'abord, je suis originaire de Trinidad. Le genre de musique qui nous identifie est le soca. Il s'agit d'une forme de calypso développée dans les années 70 qui mélangeait différents rythmes caribéens et africains, notamment le high life du Ghana, la musique indienne et donc le calypso. Je ne cherche pas intentionnellement à me rapprocher de l'afrobeat. Je ne fais que reproduire la musicalité d'un son que j'entendais dans les années 70 à Trinidad. Le soca de l'époque avait une tonalité très africaine. Par conséquent, ce que vous percevez dans ma musique est un écho du soca de mon enfance, avec peut-être des accents afrobeat. Ces deux rythmes sont tellement proches qu'on peut en effet s'y méprendre. Il y a une chanson sur mon dernier album intitulée « Jimmy Upon That Bridge ». Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient le sentiment d'entendre l'influence de Fela Kuti sur ce titre. Mais si vous l'écoutez avec attention, vous réaliserez qu'il subsiste une tonalité caribéenne. Finalement, c'est peut-être de l'afrobeat caribéen, mais il ne s'agit en aucun cas d'une volonté personnelle de copier le style afrobeat. Il se trouve seulement que le Nigeria et Trinidad partagent un rythme issu d'une histoire ancestrale commune. Où commence le soca, où finit l'afrobeat ? Difficile à dire. Tout cela n'est que le résultat d'une fusion de rythmes similaires. Il y a une légende qui dit que Fela aurait joué à Trinidad dans les années 70 et aurait profondément marqué les musiciens de la région. Ses œuvres étaient diffusées à la radio et cela a peut-être eu un impact sur le développement de notre musique. C'est en tout cas le son que j'ai dans mon oreille depuis mon enfance et que j'essaye de reproduire aujourd'hui.
So I think some of that essence remained in the country and in the music, and that's what I remember, and that's what I try to play.
Écoutons Jimmy Upon That Bridge, yeah. Un extrait du nouvel album de Anthony Joseph.
Upon that bridge, upon that lonesome bridge. He hasn't even eaten yet, but already he runs to spew. He has escaped the pages of a great text of marbles and rock upon the landscape and shore. He has escaped into the jungle with nothing but his past, desire of ages, that man dead, O pious padre, O dias mammon, dead and like a dead ghost upon the water. As upon each splintering rock, Jimmy upon that bridge, upon that river, upon that bridge.
Jimmy upon that bridge. Anthony Joseph, notre invité dans l'épopée. Anthony Joseph, on ne l'a pas encore dit, mais vous êtes aussi un homme de lettres, un auteur, un poète. Vous êtes pour moi le fils spirituel d'Amiri Baraka, grand activiste noir américain. Est-ce que ce personnage vous a inspiré ?
Yes. Baraka is one of my... I don't know if he's an... Yes, he's an inspiration. But you know, I came to Baraka...
Amiri Baraka est en effet une inspiration pour moi. J'ai découvert ses œuvres tardivement, bien après avoir commencé à écrire moi-même. J'étais déjà un poète et auteur confirmé lorsque j'ai entendu parler d'Amiri Baraka. Il n'a donc pas influencé mes premiers écrits. Mais lorsque je me suis plongé dans son patrimoine et son engagement, cela a approfondi mes connaissances sur le plan littéraire et musical. C'est un personnage éminemment important dans la culture afro-américaine. Il y en a beaucoup d'autres, comme Ted Jones par exemple, qui, à la fin des années 60, a écrit des œuvres radicales et exigeantes qu'il faut connaître.
Amiri Baraka parlait du peuple du blues pour les Afro-Américains. Est-ce que les Afro-Caribéens font partie du peuple du blues ?
Well, I mean, what did he mean by that? Because the Caribbean is not just Africa, you know, it's...
Il faudrait déjà savoir ce que Amiri Baraka entendait par peuple du blues. Car le peuple caribéen n'est pas le fruit d'un héritage africain. C'est un peuple qui réunit plusieurs cultures, plusieurs destinées. Si par contre nous nous intéressons à l'histoire globale des Caraïbes, il est vrai qu'en dehors de la bourgeoisie locale, les classes moyennes représentaient le peuple du blues. Il s'agissait d'une population démunie qui travaillait dur pour survivre. Quelles que furent leurs origines, les pauvres aux Caraïbes avaient peu de chances de pouvoir s'en sortir. Alors, sommes-nous le peuple du blues tel que l'entend Amiri Baraka ? Je ne pense pas, car la destinée des Afro-Américains est bien différente de la nôtre.
Vous avez dit quelque chose tout à l'heure sur scène. Vous avez dit l'histoire des Caribéens, ce n'est pas l'histoire de l'esclavage ou du colonialisme, c'est l'histoire de notre lutte contre l'esclavage et le colonialisme. Ça, c'est un discours qu'aurait pu tenir Amiri Baraka.
This was actually said by a writer from Trinidad called Earl Lovelace.
En fait, je n'ai fait que reprendre les propos d'un romancier dramaturge de Trinidad, du nom de Earl Lovelace. J'ai utilisé sa voix sur l'album pour le titre Caribbean Roots, que j'ai extraite d'une conférence de presse qu'il avait donnée il y a quelques années. et durant laquelle il fut interpellé par un journaliste qui lui reprochait de n'évoquer que le colonialisme et la traite négrière dans ses écrits. Il s'est alors défendu en répondant « Notre histoire n'est pas le colonialisme ou l'esclavage. Notre histoire est notre combat contre le colonialisme et l'esclavage. » En d'autres mots, il disait « On ne devient une nation que lorsqu'on a combattu ses oppresseurs. Cette lutte constante identifie un peuple. »
Est-ce qu'il est encore nécessaire de revendiquer sa culture dans un monde globalisé comme le nôtre ?
Absolutely. Yes, I think so. I think it's important. I think that's what makes the experience that we live rich.
Je pense que c'est essentiel. C'est ce qui fait la richesse de notre existence sur Terre. C'est ce qui la rend excitante. Je ne veux en aucun cas accepter l'uniformisation des cultures. Je ne veux pas faire partie d'une culture universelle voulue par des multinationales. Il est important de revendiquer nos histoires individuelles. Cela ne veut pas dire qu'il faut imposer sa culture au détriment des autres et clamer haut et fort sa différence. Non, je préfère partager ma culture et découvrir celle des autres. Je préfère découvrir le Guo ou l'afrobeat, plutôt que de rester sur mes acquis. Il est important de préserver une culture, mais rien n'empêche le travail commun. On entend beaucoup ces jours-ci le mot multiculturalisme. Je préfère largement le terme culture transversale. Essayons de nous comprendre et de nous connaître plutôt que d'avancer seul et séparément. Il faut protéger notre histoire individuelle, car elle nous identifie, mais il faut aussi savoir la partager.
A sense of individual culture and individual history. That's what defines us as people.
Anthony Joseph, nous pourrions parler des heures, tant votre propos est toujours passionnant. Mais avant de se quitter, j'aimerais savoir quel titre de votre nouvel album vous paraît le plus important ou le plus pertinent pour nos auditeurs.
I think the one that has probably the most, not the most, but a huge amount of meaning for me is Powerful Peace. Yeah.
Le titre qui a le plus de sens pour moi sur cet album, c'est Powerful Peace. Il s'agit d'un hommage au batteur Courtney Jones, qui devait être l'un des piliers de ce disque. Nous avions commencé il y a plus d'un an à travailler ensemble. Il devait assurer les parties de percussion et de batterie. Il est originaire de Trinidad, mais vivait en Autriche depuis de nombreuses années. L'année dernière, alors que nous finalisions ce projet, nous nous étions donné rendez-vous à la Martinique pour travailler pendant une semaine sur les derniers détails. Et nous étions tous très excités à l'idée de nous rendre à Paris pour enregistrer le fruit de notre travail. La veille de ce rendez-vous, il est décédé brutalement d'une crise cardiaque. Ce fut une épreuve très douloureuse pour nous tous. Powerful Peace lui est donc dédié. Il était un excellent percussionniste et batteur. Il avait longtemps dirigé le groupe Face Two Pan Groove à Trinidad. C'était un type formidable qui venait de fêter ses 50 ans. Il faisait de la musique depuis des années et avait joué à travers toute la planète. Il voulait faire connaître la musique de Trinidad au monde entier. Son esprit plane au-dessus de cet album, car le premier titre, intitulé Cora, est l'une de ses créations. Nous étions en pleine phase de réflexion et Roger Raspail cherchait des idées novatrices. Il répétait sans cesse « Qui a des compositions à me proposer ?» et Courtney a réagi spontanément avec cet accent de Trinidad irremplaçable.
«
J'ai une chanson que nous pourrions essayer. » Et lorsqu'il a commencé à la jouer, nous nous sommes dit « C'est le titre qu'il nous faut. »
Merci beaucoup Anthony Joseph et félicitations pour ce brillant album.
Thank you for your support. I appreciate it. We've known each other a while now. Thank you. Thanks for everything.
Panorama finals night in the savannah. And brother man, this scent, your sweat, or your soap up clean and come up from St. James with sticks in your back pocket. You're so salt and fresh, and yet the savannah dust rising like the air burned till it bursting. And sometimes between the heat and the iron beat, it does blow sudden cold just so. Well, look, the steel band coming. I see them on the road. And as they enter the arena, they start to play long before they hit the stage. And somewhere inside that iron section, Jones, you're beating a drum. Well, brother, I don't want to break up the jam or tie up your hand, but this kind of sudden news that they're coming with, kind of too sudden for me. Send it back, please. Send it back for me. I don't want it. I don't want it.
Powerful Peace, l'hommage d'Anthony Joseph à son ami Courtney Jones, disparu avant la finalisation de ce disque Caribbean Roots, que nous vous recommandons chaudement. Et si le propos d'Anthony Joseph vous a conquis, je vous informe que ce brillant artiste, poète et chanteur trinidadien se produira le 15 septembre prochain au New Morning à Paris et le 15 octobre à Marseille, au Dock des Suds. Et puisque nous sommes dans une humeur caraïbe, n'oubliez pas le concert de Calypso Rose, 76 ans, l'une des reines du Calypso, qui se produira mardi 13 septembre à La Cigale à Paris. La semaine prochaine, nous célébrerons Stevie Wonder à l'occasion du 40e anniversaire de son légendaire album Songs in the Key of Life, paru donc en septembre 1976. Nous accueillerons Frédéric Adrian, auteur de la seule biographie en français consacrée à Stevie Wonder, éditée chez Castor Music, et nous écouterons évidemment les grands classiques de cette immense personnalité de l'épopée des musiques noires, Nathalie Laporte, réalisatrice de cette émission, s'impatiente déjà en régie finale. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal, et merci à Christophe Paget, la voix française d'Anthony Joseph. Such a powerful piece.